C'est l'émission des Apatrides Anonymes du 22 avril 2021 sur choc.ca, votre rendez-vous bimensuel sur les phénomènes migratoires, le racisme, les discriminations, la paranoïa sécuritaire, les enjeux autochtones de plus en plus nationaux et internationaux. Simon au micro pour l'heure qui suit à l'animation. Allô Marie-Ève et allô Mathieu.
Salut Simon.
Bonsoir.
Bonjour. On vous retrouve tout au long de l'émission. Marie-Ève avec un dossier sur les îles Canaries.
Oui.
Et un autre bloc un peu plus tard dans l'émission sur l'Espagne et le Maroc. Mathieu, des enjeux plus provinciaux, je dirais?
Oui, des enjeux caquistes même et l'immigration.
Caquistes, on parlait de sabotage tantôt.
Exactement.
On va voir, ça va être plus clair tantôt quand tu vas nous expliquer tout ça. Et une grande première, un agenda conjoint. Mathieu, Marie-Ève se partagent l'agenda cette semaine à la toute fin de l'émission. Donc, on espère que la chicane ne pognera pas.
Mais non, les Apatrides Anonymes, une émission innovante.
Oui, un laboratoire.
Mais je vais parler plus fort que toi.
Ah, OK. Ben ça, on verra. En tout cas, on prendra vos appels. quelques brèves internationales tout au long de l'émission, de la bonne musique, et on commence ça dans un tout petit instant. C'est les Apatrides sur choc.ca. Donc, tantôt, je vais céder le micro à Marie-Ève pour les îles Canaries. On s'en va, on traverse déjà l'océan, on s'en va en Italie, dans la Méditerranée. Donc, après 6 mois de blocage par les autorités italiennes, le navire de sauvetage de migrants Alan Kurdi de l'ONG allemande CI a été libéré du port d'Olbia, en Sardaigne. Ça fait suite à une décision de justice. On ne sait pas quand le bateau va reprendre du service. Par contre, pour l'instant, il s'en va en entretien, en maintenance. C'est assez fréquent que l'Italie détienne des navires humanitaires dans ses ports pour toutes sortes de technicalités, souvent superflues, parfois fausses, des petites entorses à des protocoles, des cossins administratifs. En faisant preuve d'acharnement que l'Italie ne manifeste pas toujours envers la marine marchande, par exemple, ou les navires de croisière. Ce genre de zèle-là, on l'attribue souvent aux navires de sauvetage humanitaire quand c'est pas carrément qu'on les accuse de trafic humain. Donc, mini bonne nouvelle que la libération du bateau Alan Kurdi et en plus l'ONG CI va mettre sous peu en service un nouveau bateau de sauvetage. C'est vraiment bienvenu ces nouvelles-là parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun, zéro navire de sauvetage qui parcourt la Méditerranée, autre que les gardes-côtes libyens ou italiens, européens.
Ils sont d'une efficacité redoutable.
Pour ramener vers la torture,
voilà.
Effectivement. Il y a actuellement l'Ocean Viking et l'Open Arms qui sont les deux en quarantaine. Donc, Marie-Ève, on quitte la Méditerranée, on va passer devant le rocher de Gibraltar et on va descendre un peu la côte de l'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries.
Oui, les îles Canaries qui relèvent de l'Espagne, en fait. Mm-hmm. Cet archipel donc espagnol au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. On vous en a déjà parlé dans les derniers mois, mais là, honnêtement, la situation dans les camps de migrants s'est vraiment beaucoup détériorée. Les conditions de vie dans certains camps, particulièrement celui de Las Reses, sur l'île de Tenerife, sont à ce point épouvantables qu'elles donnent de plus en plus souvent lieu à des affrontements entre personnes migrantes. Au début du mois, dans le camp qui est, il faut le dire, surpeuplé de Las Reses, la police anti-émeute a même dû intervenir en tirant des balles de caoutchouc pour mettre fin à une bagarre là, qui a dégénéré à propos de la nourriture. Il y a 8 personnes qui ont été arrêtées et placées en détention et plusieurs ont été blessées et transportées à l'hôpital. Faut dire que les bagarres sont fréquentes dans ce camp-là, mais les événements dont je vous parle sont vraiment considérés comme étant les plus graves depuis l'ouverture du camp au début du mois de février. Selon les associations de défense des droits des personnes migrantes, ces affrontements-là sont en fait la conséquence directe du traitement inhumain qui est infligé aux migrants.
Les camps sont complètement surpeuplés aussi. Hein.
Oui, c'est ça. C'est ça, donc le camp justement de Las Reses qui est géré par une ONG, l'ONG AXEM, c'est un des plus grands centres des îles Canaries qui est dédié aux personnes migrantes arrivées depuis les côtes africaines. Il y a plus de 1500 personnes qui s'y entassent là, dans des conditions désastreuses. Il y a même un rapport du service municipal de la ville de San Cristobal de la Laguna, où se trouve le camp Las Reses, qui a récemment dénoncé des conditions sanitaires et d'hygiène inquiétantes. D'abord, les conditions d'hébergement sont jugées inadaptées à la crise sanitaire. Par exemple, chaque tente héberge en moyenne 32 migrants dans des espaces exigus, ce qui rend évidemment difficile, voire impossible, le respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Les experts qui ont rédigé le rapport aussi ont aussi observé des carences dans la gestion de l'alimentation. Certains migrants disent même avoir à patienter parfois jusqu'à 3 heures lors de la distribution des repas, ce qui provoque évidemment de longues files d'attente. Et puis ça, ce sont des critiques qui avaient d'ailleurs déjà été formulées dans le passé par l'ONG ASEM elle-même et d'autres associations.
On peut comprendre que le monde est à cran aussi. Là, c'est un climat qui favorise des chicanes, des bagarres.
Tout à fait, tout à fait. Non seulement il y a la nourriture, mais il y a aussi les difficultés dans l'accès à l'eau chaude, particulièrement, ce qui oblige les migrants à faire leur toilette à l'eau froide, alors que le camp est situé dans une des zones les plus froides, les plus pluvieuses et les plus venteuses de l'île. Donc, évidemment, les auteurs du rapport demandent aux autorités régionales et nationales de prendre les mesures nécessaires pour garantir des meilleures conditions de vie aux milliers de migrants qui vivent à Las Reses. Il y a même le conseiller pour la protection sociale de San Cristobal de la Laguna qui rappelle pour sa part que ce dont les migrants qui arrivent aux Canaries ont besoin, ce sont des mécanismes d'intégration et des routes sûres aussi pour pouvoir reprendre leur vie et leur route au plus vite. Parce qu'effectivement, dans les faits, là, les migrants sont bloqués dans ce centre-là, sont pas autorisés à se rendre sur le continent espagnol pour poursuivre leur voyage, parce que bon, les transferts vers l'Espagne se font, disons, au compte-gouttes. Là, c'est vraiment une stratégie du gouvernement espagnol pour gagner du temps et faciliter leur expulsion. Sauf que là, le problème, c'est que en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, ça complique un peu les choses. Bref, comme tu le disais, Simon, des conditions de vie indignes, le sentiment d'être coincé au milieu de nulle part, évidemment, tout ça crée de la frustration, ça provoque des tensions, puis tout ça peut facilement engendrer des bagarres entre les personnes qui sont hébergées là, comme on a vu. Les associations, elles, préviennent que c'est clair que d'autres affrontements de ce type-là vont continuer de se produire tant qu'il n'y aura pas un changement, mais vraiment à 180 degrés là, des politiques d'immigration en Espagne, mais aussi en Europe en général. Et puis, quelle a été la réponse de l'État à cette situation-là?
L'État espagnol?
Au niveau local, le président des Canaries, qui s'appelle Ángel Víctor Torres, s'est borné à faire une déclaration que les migrants qui prennent part à des affrontements vont être expulsés immédiatement, entre guillemets, de l'archipel espagnol. Puis sur le continent, les gouvernements espagnols et sénégalais, eux, ont signé 2 protocoles d'accord sur la gestion des flux migratoires et la migration régulière, dont on connaît pas les détails. Par exemple, on n'a pas les détails de ces 2 protocoles-là, mais c'est clair que le but avoué, c'est de mettre un frein à l'immigration clandestine là au départ des côtes ouest africaines. Faut savoir que les 2 pays coopèrent déjà dans ce domaine-là depuis des années. Par exemple, des forces espagnoles sont présentes dans le port de Dakar. Et si l'Espagne voudrait que le Sénégal reprenne les vols de rapatriement de migrants qui sont gelés dans les fêtes depuis 2018, le Sénégal, lui, ce qu'il souhaite, c'est freiner l'exode de milliers de jeunes Sénégalais, tu sais, en créant des emplois au pays.
Parce que c'est beaucoup de... S'il y a une bonne proportion qui sont issus du Sénégal, qui passent par les Canaries.
Oui, beaucoup. Et donc, fait que là, le chef espagnol était en visite à Dakar et il a annoncé la signature de 2 accords là, de soutien financier au Sénégal. 2 accords à hauteur de 50 millions et de 15 millions d'euros là, pour respectivement un projet de gestion des déchets solides puis un autre d'irrigation. Puis le gouvernement espagnol a aussi dit que dans le domaine culturel, il a annoncé l'ouverture en 2021 à Dakar du siège du premier institut culturel Cervantes en Afrique subsaharienne. Mais bon.
Ben quoi, pour divertir les expatriés espagnols ou?
Ben pour faire, pour faire de l'emploi, c'est un peu, j'ai l'impression qu'ils tirent un peu à côté de la cible. Là, wow. Bref, c'est ça. Donc, c'est un peu la situation aux Canaries qui va de mal en pis. Mm. Et voilà.
Bon, tout ça est encourageant.
Mais tantôt, surtout, je vais vous reparler. On va rester quand même en Espagne parce que vous allez voir, parce que l'Espagne a aussi des ententes. Tout à l'heure, je vais vous parler du Maroc. Mais l'Espagne a aussi des ententes avec le Maroc.
Ouais.
Et à cause de l'enclave de Ceuta et Melilla. Fait qu'on va voir aussi un peu ce qui se passe là.
Ouais, c'est quoi les dynamiques des ententes bilatérales, en fait, qui, en principe, sont interdites maintenant, selon un jugement récent de la Cour de justice européenne, mais probablement que c'est pas encore valide comme jugement. J'imagine que l'Espagne, comme la France ou l'Italie, vont essayer de multiplier ces ententes-là dans les prochains...
Ben, c'est ce qui se dégage clairement, c'est que l'Espagne veut à tout prix reprendre les vols de rapatriement dans les pays d'origine des personnes migrantes qui sont dans les camps, soit... dans les îles Canaries ou comme on le verra tantôt à Ceuta et Melilla.
Parfait. Donc la suite plus tard, Marie-Ève, Espagne-Maroc, donc un peu en lien, mais avec d'autres sujets aussi. Pour l'instant, on est toujours aux Apatrides sur Choc. On s'en va en musique. La pièce, c'est Ménage magique de l'artiste Pure Carrière. Leur dernier album, Eterna 83, c'est dans le palmarès francophone de Choc. Un duo, corrigez-moi si je me trompe, post-rock'n'roll de Québec. C'est moi qui ai décidé d'inventer le style post-rock'n'roll. Un extrait de la description dans leur Bandcamp, on se croirait dans un musée très, très... enfin, des clairs obscurs propulsés par leur propre dualité. Donc, on écoute Ménage magique de Pure Carrière. Just ménage magique de Pure Carrière sur choc.ca aux apatrides anonymes. J'ai Mathieu en face de moi. Tu vas nous parler beaucoup de la CAQ. Mais avant, j'ai une petite brève, un peu caquiste aussi.
Ben, je vais parler de goon comme toi, là.
Moi, je parle pas de goon. Il y a Daniel McCann dans mon intervention, là.
Pardon.
Donc, c'est le groupe d'action contre le racisme du gouvernement Legault. Je vais vous relire ça lentement. Le groupe d'action contre le racisme du gouvernement Legault.
Merci.
Bref, le groupe de travail commence à porter ses fruits. Daniel McCann, sous-mentionné il y a quelques secondes, a annoncé l'ajout progressif de 45 heures de formation supplémentaire sur les communautés culturelles, ethniques et autochtones dans le programme de technique policière. Je sais pas si c'est dans les cégeps ou à l'école de police à Nicolette. On va donc maintenant profiler avec tact et respect. Bref, c'est 45 heures de formation. On est pas mal convaincus ici aux apatrides que ça va régler beaucoup de problèmes.
Réguler beaucoup de problèmes, c'est
oui.
Bon ça?
Régler, j'ai dit. On parle pas de régulation. De régularité, pardon. Pour preuve, en 2016, on avait ajouté 60 heures à la formation des futurs policiers sur les problèmes, les problématiques de santé mentale, de toxicomanie. Puis on voit aujourd'hui de grandes améliorations dans ces domaines-là, n'est-ce pas?
Oui, il y a beaucoup de moins de personnes en crise qui se font effectivement tuer par la police ou... blessé par la police.
Ben oui, en fait c'est peut-être les mêmes statistiques, mais comme je disais, c'est avec beaucoup plus de tact et de respect. Donc sinon, au-delà du sarcasme, peut-être d'autres pistes, filtrer davantage à la base, peut-être avec des tests psychologiques, je sais pas trop, s'arranger pour détecter toute forme de racisme et démettre de leur fonction tout le monde immédiatement. Là. Je lance des petites idées comme ça.
C'est devrait écrire une mémoire, c'est bon?
Ouais, je suis un peu idéaliste, hein, je pense. Donc, Mathieu, toi, t'as différentes nouvelles pas mal caquistes là, en lien avec différents programmes d'immigration au Québec. Là.
Ben oui, je faisais lien, je parlais de goon, technique policière et les goons politiques.
Ouais, pourquoi les goons?
De la CAQ, mais de l'intimidation.
Ah, OK.
Oui, voilà, parce que la CAQ est en... Ben écoute, je vais commencer par le commencement. J'aurais aimé ça vous parler du jugement de la Cour fédérale d'appel sur l'entente sur les tiers-pays sûrs. J'aurais aimé ça vous parler du jugement sur la loi 21 qui est vraiment n'importe quoi, qui est vraiment bizarre. Plein d'autres choses dans l'actualité Québec-Canada, immigration, mais il y a tellement de choses accumulées sur la CAQ et ses refus ou son sabotage ou son blocage des programmes d'immigration.
Ou pour faire des jeux de mots dans ton genre, ses reflux.
Oui, dans mon genre. Voilà, merci. mais donc, je vais vous parler de cette série de sabotages-là dans les programmes fédéraux, provinciaux. Leur tendance dont je vous ai souvent parlé, nationaleuse et en même temps néolibérale capitaliste. Et là, on a, bon, un conflit qu'on recrée avec Ottawa. Je vais vous en parler à l'instant. Ça fait plusieurs qu'il y a sur l'immigration. On se sert de la fameuse rengaine des compétences des provinces là, pour dire que le fédéral ne devrait pas régulariser plus de monde, finalement.
On l'entend souvent, celle-là.
Oui, dans d'autres domaines aussi que l'immigration. Mais on sait que le but des caquistes, c'est d'avoir une main-d'œuvre la plus temporaire possible, la plus axée sur les besoins de l'économie primaire et, si possible, en région. Hein. C'est à peu près ça, leur vision de l'immigration. Et même leurs alliés du patronat actuellement, les Blancs, pour les dernières décisions qu'ils ont prises ou qu'ils n'ont pas prises. Je vais commencer avec la semaine passée. Donc, le fédéral a annoncé l'octroi de la résidence permanente à 90 000 travailleurs étrangers temporaires et étudiants étrangers qui se trouvent déjà au Canada. Mais le Québec n'est pas dans cette entente-là. Cette nouvelle politique c'est une nouvelle politique et on parle des gens qui œuvrent dans une centaine de domaines actuellement en demande, dont la santé, et qui se verront offrir une voie accélérée par Ottawa vers la résidence. Les travailleurs de la santé et les autres travailleurs essentiels admissibles devront avoir au moins un an d'expérience au Canada. Pour les étudiants diplômés, c'est avoir un programme d'études secondaires obtenu dans les 4 dernières années. Donc, ça ressemble vraiment au PEC. Là. C'est un peu vraiment le même concept que le PEC. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas dû aimer ça, j'imagine, les caquistes.
Une version accélérée là, dans les autres provinces. Là.
Oui, dans l'ensemble des autres provinces, sauf le Québec. Du côté d'Ottawa, on fait savoir que le gouvernement Legault a été informé de la naissance, mais qu'il aurait refusé d'aller de l'avant. Et pourquoi Québec aurait-il refusé? Réponse de ma meilleure, Nadine Giraud, ministre de l'Immigration.
C'est des compétences provinciales?
T'es pas loin. Ah. Le gouvernement du Québec maîtrise le pouvoir de sélection des personnes immigrantes de la catégorie économique. Ce pouvoir s'exerce selon nos besoins dans le respect de notre capacité d'accueil. Fait que c'est ça. Puis c'est quoi la conséquence sur les gens? C'est quoi les délais pour la résidence permanente? On en a déjà parlé à l'émission à plusieurs reprises. Donc, à peu près 3 ans, voire 4 ou 5, comparativement à 6 mois dans le reste du Canada. Hein? C'est génial. Et Ottawa, ben, va pas vraiment être blâmé là-dedans parce qu'il respecte en réalité les cibles d'immigration fixées par le gouvernement de la CAQ qui a diminué ses seuils en début de mandat et depuis. Je vous rappelle que dès 2021, c'est-à-dire cette année, Ottawa espère délivrer 400 000 résidences permanentes. Et du côté de Québec, on est toujours entre 44 000 et 47 000 immigrants permanents cette année dans les objectifs. Fait que même, bon, c'est sûr, l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration, je les cite, « Avec le Québec, vous allez attendre 5 ans pour devenir résident permanent, alors que dans le reste du pays, en quelques mois seulement, vous avez ce statut. »
Donc, on atteint le 5 ans au Québec. Là.
On peut aller jusqu'à 5 ans, là, dans les derniers chiffres. Il y a des cas, justement, qui ont été documentés dans les médias. Et la Fédération des chambres de commerce du Québec qui dit « Ça ne fait que mettre en lumière les blocages qu'on a en ce moment avec le gouvernement du Québec. Il doit revoir sa façon de gérer sa politique d'immigration et ses relations avec le fédéral. » Quand même, hein? Faut le faire, là, tu sais.
Mais quand même, la Chambre de commerce est progressiste, c'est ça.
Que... Ben, ils ont leurs intérêts, on s'entend.
Ouais, ben c'est hein. Surtout, c'est qu'ils veulent, comme Mathieu disait, je pense que ça, c'est dans l'intérêt de la Chambre de commerce aussi d'avoir une main-d'œuvre temporaire et flexible et dans les secteurs dont tu parlais, Mathieu, tu sais, puis ben là, si je veux dire, à un moment donné, comme on dirait, un fou d'une poche, là, si d'un côté, ça te prend 6 mois, puis dans l'autre, 5 ans, tu vas peut-être changer de province, hein?
Ben, où les gens vont passer par une autre province, s'il y a un poste qui les...
Ah, OK. J'y arrive,
mais on va pas hijacker les...
Non, vous êtes des très, très...
Vous
êtes des très bons observateurs, je vous remercie. Je vais peut-être vous révéler ça.
À toi la parole.
Donc, Radio-Canada a quand même beaucoup couvert le dossier depuis quelques semaines et ont interrogé des dizaines de travailleurs étrangers qui ont confié leur volonté de quitter la province. C'était ma prochaine phrase, voilà, justement. Tous évoquent les mêmes contraintes, incertitudes, angoisse face aux délais. Sans documents, ils s'exposent à des difficultés pour avoir accès à l'assurance maladie, à un prêt. Ils doivent aussi doivent composer avec des difficultés pour renouveler leur permis de travail ou d'étudiant, évidemment. Donc, on se retrouve finalement dans une situation où est-ce que personne n'est content. Mais là, il y a une petite brèche. Je vais terminer là-dessus avant la pause. Ben, c'est qu'il y a les nationalistes. Et il y a les capitalistes dans la CAQ aussi.
Souvent, la même personne, là, les deux.
Non, pas nécessairement, Simon, c'est ça. Jean Boulet, ministre de l'Emploi et du Travail, lui, qui vient du milieu patronal, ben, il est pas très content de ce qui se passe parce qu'il se fait faire de la pression. Il est allé faire, d'ailleurs, cette semaine, une belle petite conférence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ben, en Zoom, évidemment, là. Et il a déclaré, l'immigration, pour moi, je pense que c'est un incontournable, je pense. Ça, c'est déjà un début. Il a fait l'éloge de l'immigration, particulièrement de l'immigration temporaire. Tiens donc.
Ah, il a juste son discours.
Oui, mais il faut pas qu'il aille all the way, là. Il a notamment indiqué avoir eu un entretien avec son homologue à Ottawa et que celui-ci s'apprêterait à modifier les règles concernant la venue de travailleurs étrangers temporaires pour permettre aux entreprises québécoises d'en accueillir davantage. Parce qu'actuellement, il peut pas avoir plus que 10% de travailleurs étrangers temporaires dans une entreprise. Ça, c'est la loi fédérale. Et là, il y aurait eu une entente pour 20%. Fait que là, il était fou comme la marde, évidemment. Il a même dit que le programme de l'expérience québécoise, le PEC, il y aurait des améliorations à faire. Il a dit qu'il ouvrait la porte à une hausse des seuils d'immigration.
On n'est pas sûr qu'on souhaite qu'il apporte des améliorations.
Non, ils viennent de faire une réforme qui a été toute croche. Et ben, pour les observateurs, c'est un constat d'échec de la part du ministre Boulet de son propre gouvernement. Il essaie de trouver des solutions, mais ces solutions doivent venir de ses collègues qui décident au niveau de l'immigration et qui font rien pour lui faciliter la tâche au niveau de l'emploi. Et tout le monde cite François Legault et Simon-Jolin Barrette, évidemment. Peut-être vous rappeler que depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, le nombre de travailleurs étrangers a atteint un niveau record. En 2017, 17 600 postes de travailleurs étrangers temporaires étaient acceptés au Québec. 2019, 34 000. Et 2020, 34 000 malgré la pandémie et la fermeture des frontières. Donc l'orientation est vraiment vers l'immigration temporaire, axée sur les besoins du marché, des patrons. Mais même ça, c'est pas assez pour eux. Et même Québec a demandé à Ottawa de gérer lui-même entièrement le programme des travailleurs étrangers temporaires qui est géré conjointement actuellement.
Donc ça fait beaucoup d'allers-retours, pays d'origine, Québec, pays d'origine. Il me semble en période COVID, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Mais c'est jetable. Ça reste une main-d'œuvre jetable, c'est ça qu'ils veulent.
On veut pas trop de gens qui s'installent ici de façon permanente. C'est assez clair comme message. Et puis même là-dedans, on n'est pas logique parce qu'on nuit même à ses propres alliés du milieu des affaires. Donc, dans quelques instants, Simon, je vais te parler d'autres affaires louches.
Mais ça, juste avant, pour compléter, on a du temps, là. On parlait de dichotomie, il y a des ministres plus économie, relance économique, il y en a d'autres qui sont plus identité nationale et identité...
Nationaliste, oui.
Il y a des personnes qui ont les deux à l'intérieur d'eux, puis ça doit être une tempête dans leur tête, là.
Je pense qu'il s'appelle François Legault,
ouais. Il a une difficulté peut-être à concilier tout ça. Fait que quelques notes de musique, puis tu poursuis avec d'autres nouvelles...
Le musée des horreurs.
Voilà, mais... De retour en studio avec Mathieu sur choc.ca aux Apatrides. Alors, le Musée des horreurs, poursuite de la visite avec toi.
Je peux-tu juste dire un petit quelque chose?
Oui, Marie-Ève.
Parce que le petit marqueur que vous venez d'entendre, c'est ça vient du groupe de la formation Bad Dylan, et ouais. Ça s'appelle, c'est un extrait de la pièce Arthrose légère.
Puis c'est très bon. On va entendre un autre mini-extrait un peu plus tard.
Bad Dylan.
Oui, oui. C'est comme les Technical Kidmen, là, des beaux jeux de mots. Avec, enfin.
Ouh, on commencera pas sur les jeux de mots.
Donc, c'est un autre groupe local.
Oui, oui, okay. Oui, oui, je sais.
Bon, vas-y, Mathieu.
Donc, d'autres dossiers dans les dernières semaines qui ont peut-être pas fait les grandes manchettes, mais un titre, explosion du nombre de plaintes visant le ministère de l'Immigration du Québec, documents perdus, engagements non respectés, manque de collaboration, le protecteur du citoyen déplore des pratiques du gouvernement Legault en matière d'immigration. Donc, on a appris que le protecteur du citoyen alertait le gouvernement Legault et le MIFI, le ministère de l'Immigration, en faisant part de ses vives inquiétudes. On y apprend que le nombre de motifs de plainte a pratiquement quadruplé en un an, et celle-ci concernant dans 9 cas sur 10, quel programme?
Le PEC.
Le PEC, bravo Simon.
C'est le seul que je connais.
OK. Ah, il y a un programme de travailleurs étrangers temporaires aussi. Entre avril 2020 et mars 2021, 822 motifs ont été créés, donc 800 plaintes ont été déposées, 479 ont été considérées, et l'année d'avant, c'était 218 déposés pour 75 fondés. Et on parle évidemment des délais de traitement qui font partie des inquiétudes, donc quand le protecteur du citoyen te blâme de façon si large que ça, si massive, c'est qu'il y a un problème, parce que quand les gens se rendent jusque-là, c'est quand même assez complexe. Donc, il y a ça qui est sorti récemment. Un peu plus loin dans le temps, Québec pressé d'accélérer et de simplifier la régularisation des anges gardiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez des chiffres qui sont sortis. Non?
Rappelle-nous ça.
Je vous rappelle ça. Juste vous dire que le gouvernement est très exigeant dans les documents à fournir. Le gouvernement a finalisé très peu de dossiers, donc pour les anges gardiens, entre guillemets. À la fin février, 33 demandes avaient été finalisées, donnant lieu à la délivrance de 51 certificats de sélection du Québec. Actuellement, dans ces 51-là, seulement 3 dossiers ont été finalisés au niveau du processus à Ottawa sur plus de 700. Donc, personnes au Québec qui ont déposé une demande. Et dans le reste du Canada, près de 500 dossiers ont été déjà approuvés, soit près de la moitié des demandes. Fait qu'au Québec, c'est 51 sur 700, puis dans le reste du Canada, c'est 500 sur 1000 qui ont été approuvés.
Donc, 50% à Ottawa et 0,5% à Québec.
C'est ça. Puis au niveau du fédéral, c'est géré directement par le fédéral, donc c'est sûr qu'il y a ça qui est plus vite, mais on voit vraiment aussi qu'il y a... Puis il y a 10 fonctionnaires qui s'occupent juste des dossiers des anges gardiens actuellement au MIFI. Puis ils ont fait en 2-3 mois, ils ont réglé 51 dossiers.
Mais c'est peut-être pas de leur faute non plus, là, c'est les directives.
C'est compliqué, là, le télétravail. Là.
Oui, la pandémie, mettre le masque au travail, je sais, c'est pas facile.
Il faut scanner des documents, là, il faut qu'ils se lisent. C'est compliqué.
Et on aura un spécial télétravail la prochaine émission avec Marie.
Non. Et vous dire aussi, en mars, ça a vraiment passé inaperçu, le gouvernement Legault refuse l'arrivée des étudiants réfugiés, c'était le titre de l'article. Donc, créé il y a plus d'une quarantaine d'années, le programme pan-canadien d'étudiants réfugiés, le PER, a été suspendu au Québec à l'instar d'autres programmes d'accueil des réfugiés. Chaque année, dans l'ensemble du pays, depuis 1978, près de 130 étudiants réfugiés sont accueillis dans des campus canadiens, dont quelques dizaines au Québec, par le biais de l'organisme Entraide universitaire mondiale du Canada, qui travaille en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On parle de jeunes de 18 à 25 ans, vulnérables, qui viennent des camps de réfugiés en Jordanie, Ouganda, Malawi, Tanzanie. Et en plus que l'ensemble des frais sont pris en charge par les comités d'étudiants qui organisent des collectes de fonds dans chaque cégep et université. Pour justifier cette suspension, le gouvernement évoque des soupçons de fraude concernant les différents programmes liés à l'accueil des réfugiés au Québec. Bon. Ces allégations avaient déjà été mises l'avant, fin octobre, par le MIFI.
C'est géré par Fitzgibbon ou quoi?
Par le MIFI, okay. Qui avait pris la décision de suspendre durant un an le parrainage des réfugiés par des organismes. On avait parlé à l'émission, ça ouais. Et alors, la journée même, plus tard, après que l'article est sorti, Québec compte finalement accueillir des étudiants réfugiés. Le gouvernement reconnaît, contrairement à ce qui a été laissé entendre, qu'il n'y a aucun soupçon de fraude concernant ce programme. Et je cite Nadine Giraud, le programme de parrainage des étudiants réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est important, et je sais à quel point il tient au cœur des établissements d'enseignement qui y prennent part. Donc, un recul dans la même journée. On parle de 125 étudiants. Là, tout est payé. C'est des gens qui sont au doctorat ou qui sont au bac. c'est vraiment...
Mais d'où sortaient ces histoires de fraude, là?
Ah, ben ça, ils ont sorti ça pour le parrainage par des organismes il y a un an. C'est des histoires... C'est pas clair. Ça, j'ai pas devant moi les infos précises, là, mais je sais que c'est toujours pas réglé. Il y a supposément plein d'enquêtes en cours là-dessus.
Moi, je pense que c'est venu d'un article de Denise Bombardier.
Ah, elle verse dans les fake news, ça se peut très bien.
Hein. Je termine avec une un petit article, parce que c'est dans le sujet. Hey! Donc, un texte de Julia Posca de l'Iris dans le Devoir du 12 avril qui s'appelle « Faut-il vraiment réduire les seuils d'immigration? » Et c'est le fun parce qu'elle répond à un certain Dieudonné Ella Oyono qui se présente comme économiste, mais il disait pas dans son premier texte, mais il est aussi président du Parti québécois actuellement. Et le 9 avril, il a écrit donc un texte en disant « Devant la rareté de main-d'œuvre qui touche plusieurs secteurs de l'économie québécoise, augmenter les seuils d'immigration n'est pas une solution soutenable à long terme, ni du point de vue économique en raison du chômage élevé des immigrants, ni du point de vue social en raison de la pression sur les services publics par les immigrants. » Donc, Mme Posca a dit « Cette conclusion nous semble toutefois fondée sur des prémices erronées. Peut-être y a-t-il des raisons politiques qui en poussent certains, à l'instar de M. Oyono, à rejeter l'idée d'une hausse des seuils d'immigration. Cependant, les raisons sociales et économiques le plus souvent invoquées pour défendre une telle position reposent sur une analyse inexacte de la situation des personnes immigrantes au Québec, quand on sait que, au niveau des statistiques, le chômage est réglé assez vite, les études vont assez bien après quelques années.
Avant même une génération en général.
Exactement. Donc, je vais lire l'article de Julia Posca dans Le Devoir, qui répondait à un autre qui faisait la promotion de la baisse des seuils d'immigration, quand tout le monde, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est évident qu'il faut les monter. Donc, voilà mon musée des horaires caquistes.
Ça venait du PQ, le club-école de la CAQ.
Ou vice-versa.
C'est ça. Merci, Mathieu. Le musée des horaires est fermé pour l'instant.
Pour l'instant?
Bon, oui, parce que la CAQ...
Dans les prochaines semaines, je pense que vous allez entendre des ministres de la CAQ dire que finalement, on va peut-être monter les seuils. C'est vrai qu'on a besoin de travailleurs, la pénurie de main-d'œuvre. Vous allez voir ça dans les prochaines
La pression des lobbies, des chambres de commerce pour la relance économique va être très forte.
Mais le slogan de la CAQ, en fait, il devrait être changé pour on recule, on n'avance pas, genre.
C'était quoi le slogan d'origine?
On avance, ben non, on recule pas.
Peut-être vous dire que le vrai slogan, Marie-Ève, de la CAQ sur l'immigration, c'est on en prend moins, mais on en prend soin. Ah, mais là, c'est vraiment pas le cas parce que 5 ans d'attente, on repassera.
On repassera effectivement, et là on va repasser en musique. C'est une pièce qui s'appelle... attendez, je vais sortir mon meilleur arabo-égyptien. Ya Abba Yabna, entre parenthèses, Oh You Loved Ones. Merci Mathieu, en passant, j'ai oublié de te dire merci, mais on te retrouve plus tard aussi. Donc, l'artiste Rami Essam, son album de 2020 qui s'appelle comme la pièce Ya Abba Yabna. Rami Essam, c'est un jeune auteur-compositeur rock égyptien, très présent lors de la révolution de 2011, très présent sur la place Tahrir. Certains l'avaient surnommé, je pense, le héros de la place Tahrir. Exilé depuis quelques années en Suède parce qu'il a subi de la torture de la part du régime actuel qui continue de dénoncer. Entre autres, il a co-écrit, co-interprété avec PJ Harvey la magnifique pièce de Camp, dont les profits reviennent à des ONG qui travaillent dans des camps de réfugiés de la région. De la région, je veux dire, autour de... pas en Suède, mais autour de la Syrie, la grande, le Proche-Orient. Pour l'instant, on va écouter sa pièce solo, Ya Abba Yabna, Oh You Loved Ones, c'est Rami Essam. Après la pièce, Marie-Ève repasse dans le studio principal pour nous parler de l'Espagne et du Maroc.
في القربة جوا في قلوبنا اوعوا تفتكروا
Alors?
Ben oui, alors, on a été surpris par la fin de la chanson.
Oui.
Marie-Ève, t'es de retour pour nous parler. Ben, tantôt, on était dans les îles Canaries, puis on s'en va vers, c'est ça, Espagne-Maroc.
Oui, tranquillement, mais je reste quand même un petit peu très brièvement aux îles Canaries.
Okay.
Parce que en fait, aux îles Canaries, il y a plusieurs personnes migrantes qui se trouvent sur l'île qui sont arrivées depuis le Maroc. Et là, depuis le 30 mars, les accords de rapatriement, je vous parlais d'accord tout à l'heure, là, à la fin de mon bloc, les accords de rapatriement qui ont été signés entre l'Espagne et le Maroc, ben, sont suspendus. Le Maroc a décidé d'interrompre les liaisons aériennes avec plusieurs pays, dont l'Espagne, en raison de la pandémie de COVID-19. Mmh. Et les autorités espagnoles, ben, essaient là aussi de reprendre les renvois, comme je le disais, là, dans les meilleurs délais. Alors que ben, là, la fermeture de l'espace aérien entre les deux pays, c'est-à-dire entre l'Espagne et le Maroc, elle va être en vigueur au moins jusqu'au 21 mai et peut-être renouvelable là, en raison de la pandémie. Mais donc, si on se tourne vers l'enclave de Ceuta et Melilla, un phénomène relatif...
Au Maroc, là, peut-être pour préciser.
Oui, au Maroc, c'est pour ça que je parlais du Maroc. Là. Donc, enclave espagnole au Maroc, Ceuta et Melilla. Il y a un phénomène relativement nouveau, ou en tout cas qui prend de l'ampleur depuis le début de la pandémie, ce sont les tentatives de traverser à la nage depuis le Maroc qui semblent vraiment être en hausse. Il y a 4 personnes qui ont été retrouvées mortes noyées au mois de mars, ou en tout cas dont les corps ont été retrouvés. Selon Mohamed Ben Issa de l'Observatoire des droits de l'homme, les passages à la nage entre les plages marocaines puis les enclaves espagnoles sont difficiles à quantifier puisque même les migrants qui réussissent sont souvent pas répertoriés. Mais d'après lui, il y aurait plusieurs centaines de migrants qui auraient tenté là, de rejoindre à la nage les enclaves espagnol depuis le mois de septembre 2020. En fait, ce qui peut un peu expliquer, c'est au-delà de la pandémie, c'est que avant, il y a beaucoup de migrants qui voulaient entrer à Ceuta et Melilla, ils se cachaient en fait dans des remorques, dans les camions, des voitures. Mais là, comme je l'ai dit, avec la pandémie, puis la fermeture des frontières terrestres, les candidates à l'immigration ont dû chercher de nouveaux moyens pour entrer à Ceuta et Melilla. En plus, l'escalade des triples grillages de barbelés est aussi devenue de plus en plus compliquée parce que les contrôles espagnols et marocains se sont intensifiés autour des routes, autour de la zone terrestre, puis autour des grillages. Puis en plus, grimper sur les barbelés entraîne souvent des blessures graves, soit des chutes ou parce qu'on se fait ruer de coups par les policiers espagnols.
C'est des barbelés qui sont connus pour être particulièrement meurtriers. Là,
oui. Puis en plus, la clôture, comme je disais, fait comme c'est comme une triple clôture. Là.
Ouais.
Donc, c'est pas de la petite cage à poules. Et pour les personnes qui traversent... ceux qui traversent, ce sont aussi des personnes qui, évidemment, peuvent pas se payer des passeurs pour franchir la Méditerranée à bord de Zodiac ou de jet ski, par exemple. La nage, elle coûte rien, à part la vie. Parce que même s'il y a seulement une centaine de mètres qui séparent Melilla, par exemple, du port de Beni Ansar au Maroc, reste que les risques d'une traversée à la nage sont élevés. L'eau est froide, puis en plus, il y a des courants marins très trompeurs. Fait que les personnes migrantes ont beau penser que nager est le chemin le plus rapide, ça demeure surtout très dangereux. Puisque les futurs nageurs font souvent, c'est qu'ils achètent là, des combinaisons et des palmes dans les marchés autour en espérant là avoir moins froid puis pouvoir aller plus vite. Donc c'est un phénomène qui est relativement nouveau, on sait pas si ça va augmenter davantage, mais ça va être à surveiller. Autre nouvelle aussi, toujours à Ceuta et Melilla, il y a la police espagnole qui a annoncé la semaine passée avoir arrêté 20 passeurs qui faisaient transiter des personnes migrantes du nord de l'Afrique vers l'Espagne. Ces arrestations-là sont survenues lors de perquisitions qui ont eu lieu là dans plusieurs quartiers de Ceuta et Melilla, surtout à Ceuta, où des armes à feu, des munitions et 3 bateaux, en plus que de l'argent liquide, ont été retrouvés. Les victimes, elles, de ces passeurs-là étaient principalement marocaines et mineures. Et elles étaient approchées à Ceuta et dans les villes marocaines environnantes. Les personnes faisaient ensuite la traversée vers la péninsule ibérique en échange de 2 500 €, rien de moins. À bord d'embarcations, là, pouvant contenir entre 7 et 10 personnes. Donc, on peut comprendre à quel point ça peut être lucratif pour les passeurs. Selon le média local El Faro, les passeurs n'hésitaient pas à attaquer ou menacer les personnes migrantes en cas de retard ou de non-paiement de la traversée. Et c'est un peu bizarre parce que ce réseau-là, entre guillemets, s'était fait connaître notamment sur les réseaux sociaux, OK, en publiant des espèces de clips un peu à la rappeur, là.
Il y a comme genre de publicité pour les passeurs.
Oui, okay. qui se faisaient de l'autopromotion, là, puis qui mettaient de l'avant leur style de vie, puis en brandissant leurs armes à feu, là, c'est un peu bizarre, douteux. Le réseau démantelé sur lequel les autorités espagnoles enquêtaient depuis des mois est aussi soupçonné d'être à l'origine d'un naufrage en février qui a causé la mort de 4 personnes au large de Gibraltar. Fait qu'on va voir là, ce qui arrive avec... le procès de ces personnes-là. Finalement, dernière petite nouvelle, on a appris la semaine passée que la militante espagnole Elena Maleno, qui est fondatrice de l'ONG d'aide aux migrants Caminando Fronteras, aurait été violemment expulsée du Maroc où elle vit depuis 20 ans. C'est elle-même qui en a fait l'annonce là, lors d'une conférence de presse à Madrid
le 12 avril. Excuse-moi, mais elle venait d'être acquittée, elle, d'une poursuite qui était de...
Oui, non, c'est ça. Ben, c'est, elle, d'ailleurs, pendant sa conférence de presse, elle dit qu'elle est victime de harcèlement. Là, c'est pas la première fois que... En tout cas, clairement, elle dérange, elle. Là.
Oui.
Cette expulsion-là serait survenue le 23 janvier, alors que les autorités marocaines auraient empêché de rentrer dans le pays et l'auraient fait monter dans un avion direct pour Barcelone. Les autorités y auraient aussi confisqué ses papiers. Il n'aurait pas permis de boire d'eau ou de prendre ses médicaments. Comme je le disais, c'est clair que les activités d'Elena Maleno dérangent. Elle vient en aide aux migrants en difficulté en permettant au secours de les localiser là, au large des côtes espagnoles. Puis elle a fait effectivement l'objet de plusieurs enquêtes en Espagne et au Maroc ces dernières années, dont plutôt on parlait de trafic de migrants, par exemple, de trafic humain, tout ça. Mais toutes les enquêtes qui ont été ouvertes et qui l'ont visée ont toutes été classées sans suite, tant celles qui venaient de l'Espagne que du Maroc. Mais malgré ça, Elena Maleno, Maleno se dit toujours victime de harcèlement. Elle dit que depuis avril 2020, elle et sa famille ont été victimes de 37 attaques dont elle tient directement les gouvernements espagnols et marocains responsables. Elle dit aussi que la porte de son domicile au Maroc a été forcée à 3 reprises et qu'elle a été qu'elle était régulièrement suivie. Mais paradoxalement, son travail a aussi été plusieurs fois récompensé ces dernières années à travers le monde. Elle a reçu, entre autres, le prix Nacho de la Mata en 2015, prix du Conseil général des avocats espagnols. Elle a reçu aussi le prix de l'Association espagnole de défense des droits humains en 2018 et le prix McBride pour la paix décerné en 2018 par le International Peace Bureau. Et je terminerai peut-être en citant Maria Santa Martin, de l'ONG Frontline Defenders, qui est basée en Inde, et qui dit « Le cas de Elena est malheureusement l'exemple typique de ce qui peut arriver à toute personne qui défend les droits des personnes migrantes aux frontières de l'Union européenne. » Fait que ça joue dur.
C'est une région, oui, effectivement, beaucoup de tensions et des traversées pas faciles. On est toujours, merci Marie-Ève, on est toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Quelques notes de musique et on poursuit, on s'en va vers la fin de l'émission. Avant de passer à l'agenda conjoint avec Marie-Ève et Mathieu, quelques petites brèves encore une fois. La rivière Magpie sur la Côte-Nord a obtenu une reconnaissance internationale pour qu'elle soit protégée contre des menaces, par exemple contre des projets de barrage. La rivière a donc maintenant une personnalité juridique officielle, ce qui va permettre à des tribunaux de trancher si une injustice est commise envers elle. Ce statut-là a été obtenu par des résolutions adoptées par le Conseil des Innus d'Ikunichit et les MRC de Mingani, mais ça a été un processus assez complexe, assez long, soutenu par l'Observatoire international des droits de la nature. C'est une première au Canada, une rivière qui a une personnalité juridique. Il y a quelques initiatives du genre qui ont déjà été menées avec succès ailleurs, mais c'est encore assez rare. Donc, ça vient un peu freiner ou au moins encadrer les ambitions d'Hydro-Québec sur la Côte-Nord, qui a le dos très large sur le territoire et sur, je dirais, toutes les rivières. Donc, c'est un peu une façon pour les communautés locales de reprendre le contrôle de leur développement. Je trouve aussi très beau de voir cette collaboration entre autochtones et non-autochtones pour la conservation de l'environnement. Souvent, j'ai l'impression que les autochtones sont un peu seuls au front. Les communautés locales reprochaient, avant d'entamer ce processus-là, au gouvernement du Québec d'avoir rejeté leur projet d'aires protégées. D'ailleurs, il y avait un article qui sortait aujourd'hui sur les aires protégées. On veut atteindre 30 % au Québec, mais souvent, c'est des zones inexploitables, très loin dans le nord et rien qui est à proximité de là où les gens habitent. Donc, c'est un peu pour cette raison-là qu'on est allé de l'avant avec cette solution de personnalité juridique. Fait que bravo! On entend développer le potentiel sportif plein air de la rivière Magpie, qui paraît-il est une des meilleures au monde pour les activités en eau vive, ce qui nécessite des infrastructures pas mal plus légères et moins intrusives que des barrages hydroélectriques. On va pas l'espérer, mais ça va probablement prendre un litige pour que cette personnalité juridique-là soit valide ou soit. Il va falloir qu'elle soit testée finalement avec les tribunaux, donc on pourra voir si c'est vraiment efficace ou si c'est plus de l'ordre du symbole. Je vais vous parler de Blaine Higgs rapidement, l'affreux premier ministre du Nouveau-Brunswick. Donc, j'avais intitulé ça le pied dans la bouche de la semaine ou l'épée de la semaine, je ne savais pas trop. On reste quand même dans les thématiques autochtones. Donc, Blaine Higgs, le premier ministre très conservateur du Nouveau-Brunswick, il a récemment coupé aux Premières Nations le remboursement d'une partie de la taxe de vente provinciale perçus dans les entreprises situées dans les réserves, donc privant les Autochtones d'environ 8 millions de dollars annuellement. Juste en soi, ça a très mal passé, ça a fait un tollé. Il participait à une ligne ouverte la semaine dernière et il s'est fait questionner par une auditrice à savoir pourquoi il taxait pas plutôt les super riches de la province, les Irving, les McCain. Il a répondu que les super riches au Nouveau-Brunswick, c'est les réserves autochtones. Donc, non seulement, c'est complètement faux, et on peut certainement pas comparer ça aux Irving et aux McCain, qui sont des familles, des empires milliardaires. En plus, les quelques millions qui restaient dans les réserves grâce à cette mesure-là, ça finançait principalement des services, l'éducation, des infrastructures locales. Fait qu'il s'est fait ramasser toute la semaine, surtout par des membres de communautés autochtones qui ont pas manqué de rappeler le long historique de raciste et d'impérialiste de Blaine Higgs. Alors, Blaine Higgs, on lui dit à la poubelle.
Oui, Blaine Higgs, c'est un ancien cadre de chez Irving.
Je savais même pas
ça. Oui, il a passé sa vie là.
Quel hasard. Donc, il veille toujours aux protections de la main qui le nourrissait.
Oui, du patriarche de la province, oui.
Mathieu, tu aurais quelques suggestions dans l'agenda pour nous?
Oui, je vais vous parler de la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes. Lewis qui a sorti une série de podcasts sur l'abolition de la police et des prisons qui s'appelle Le Verger au complet. Il y a 4 épisodes pour l'instant sur le site de la CLAQ. Et on parle de, par exemple, emprisonnement des migrants, criminalisation de la dissidence, justice transformatrice. Je cite, vous allez comprendre c'est quoi Le Verger au complet. Alors que les discours libéraux présentent les violences policières comme l'affaire de quelques pommes pourries dans le panier, nous proposons plutôt une analyse critique de la police et des institutions punitives. On ne réforme pas un système pourri, on l'abolit. Attaquons-nous au verger au complet de pommes.
Moi, j'aime beaucoup l'analogie.
Oui, c'est drôle, hein?
Oui.
Sinon, la CLAQ organise une manif le 1er mai, la manif anticapitaliste. Cette année, le titre, c'est « Nous ne voulons pas de ce monde qu'ils essaient de nous vendre. Pas de retour à la normale comme c'était. » Le rendez-vous est à 16h au Parc Jarry, au métro de Castelnau, près du métro de Castelnau, donc à 16h le 1er mai. Et sinon, il y a aussi une autre manif, aussi intéressante, le 1er mai, pour la Journée internationale des travailleurs. Travailleurs, je le rappelle. Rassemblement à midi et demi au Carré Bernia dans Pointe-Saint-Charles. Et ça, c'est organisé par les IWW avec un paquet de groupes communautaires et militants, dont Action Gardien, le MAC de Montréal, le Centre des travailleurs, travailleuses et migrants, Solidarité sans frontières. Et les 3 revendications, c'est... le titre, c'est « La précarité, un enjeu de santé publique ». Et les 3 revendications, c'est des meilleures conditions de travail et de vie, un statut pour tous et toutes, et un droit au logement vraiment réel. Donc, ça vous tente, 2 manifs le 1er mai. Et si j'ai 2 secondes, Marie-Ève, oui, sans problème. Ce samedi 24 avril, c'est incontournable dans l'actualité, la question du logement. La manif à Montréal dans le cadre de la Journée des locataires. Il y a des manifs un peu partout au Québec. C'est organisé par le RECLAC, qui est le regroupement national, provincial des comités logements et associations de locataires. Donc, à Montréal, c'est le 24 avril, ce samedi, 13h30 au Métro-Parc. Le titre, c'est « Les loyers explosent, un contrôle s'impose ». Et avec tout ce qui se passe avec les rénovictions, les expulsions, l'augmentation drastique des loyers, des prix des loyers, la spéculation. C'est une grosse année. Ça va être un gros 1er juillet. Donc, manif samedi un peu partout au Québec, dont à Montréal.
Oui, c'est ça. C'est dur à dire un peu si est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou si c'est parce que les médias de masse en parlent plus. Mais j'ai l'impression que c'est un enjeu qui est vraiment, vraiment plus présent dans les médias de masse puis il est détendu.
Tu parles des rénovictions.
Oui, c'est ça.
Il y a des blocs comme celui en face du Parc La Fontaine. Je pense que c'est demain. Là, on est jeudi. Si on nous écoute en direct, demain, il y a un rassemblement devant.
À 17h sur la rue Papineau, devant
c'est
le
ça,
bloc.
C'est genre un 14 étages, plein de personnes âgées.
Mais
en tout cas,
il y en avait avant beaucoup. J'ai travaillé dans le logement. Il y en avait, mais c'est vrai que les médias en parlent plus. Mais là, c'est pire à cause de la spéculation et à cause de la rareté, à cause de tout ce que vous savez. La condamnation.
Quand c'est parc extension, par exemple, ça touche énormément de familles immigrantes. C'est comme un double condamnation. Marie-Ève, tu as aussi des suggestions à l'agenda pour nous?
Oui, de mon côté, moi, j'ai quelques annonces ciblées, disons, de Solidarité sans frontières, qui est très actif ces temps-ci sur le front de la lutte pour les droits des personnes migrantes. Comme on vous a déjà parlé que SSF avait lancé un fonds de soutien destiné aux personnes sans statut qui subissent de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Depuis mars 2020, les dons qui ont été amassés par SSF ont été redistribués pour aider à payer des choses comme le loyer, la nourriture, médicaments, services de base, mais pour des centaines de personnes et de familles dans leur réseau. Et à ce jour, Solidarité sans frontières a pu redistribuer plus de 200 000 $ de cette façon-là quand même, ce qui peut sembler beaucoup, mais ça représente une fraction des besoins réels qui sont évalués par SSF à environ 25 000 $ par mois. Ça fait que là, ce que SSF a décidé de faire, c'est comme le fonds est à sec, SSF cherche à pérenniser ce fonds-là avec des dons mensuels, même si c'est un petit montant. Je tiens à dire que c'est pas de la charité, hein, mais bien une pratique active de solidarité qui participe à la création de communautés. Donc, pour devenir donateur, donatrice mensuelle, vous pouvez vous rendre sur la page du site web de Solidarité sans frontières et vous avez juste à cliquer sur l'onglet COVID-19 puis vous avez toutes la façon de faire. SSF a aussi commencé une autre levée de fonds pour cette fois-ci soutenir les personnes qui vont participer à la marche Un statut pour tous et toutes qui va avoir lieu du 18 au 25 juillet prochain et de Montréal à Ottawa. Donc ça va commencer par une marche à Montréal, mais après, les marcheurs et marcheuses vont se rendre jusqu'à Ottawa. Le but de la marche, c'est de soutenir la lutte pour un programme de régularisation qui soit complet et continu pour toutes les personnes migrantes qui vivent avec un statut précaire, mais aussi de lancer ce message à Justin Trudeau, et je cite SSF, « On est tanné de vos demi-mesures comme votre nouveau programme de régularisation. » On a entendu parler en plus tantôt, ça va tellement pas vite. « Ce qu'on veut, c'est la dignité, l'égalité et la justice. » Donc, tout le monde est évidemment participé là à la marche, peu importe son statut, que vous soyez travailleur de la santé, travailleur communautaire, peu importe. On peut décider de participer, comme je disais, soit juste à la marche à Montréal, on peut décider de participer à une journée en chemin vers Ottawa, ou encore les 7 jours, c'est comme on veut. Donc, pour en savoir plus, pour s'inscrire ou pour faire un don, le plus facile, en fait, c'est d'aller visiter la page
Facebook.
Bon, Mathieu l'a dit, là.
FB.
La page Facebook, donc, de Solidarité sans frontières. Puis là, vous avez tous les détails.
Ouais, j'imagine qu'on accepte dons de nourriture, d'hébergement, de toutes sortes de choses comme ça.
Oui, j'imagine, là.
Fait que, ben, merci Marie-Ève pour ces suggestions-là. Merci Mathieu pour les suggestions de manifestation. Quelques notes de musique. On revient pour la conclusion de l'émission dans un petit instant. J'avais un petit dessert, le fun, là, avant de quitter l'émission, donc avant de terminer sur une brève internationale qui est pas piquée des verres. Le gouvernement chinois a commandité un film qui vient tout juste de sortir, en Chine en tout cas, The Wings of Songs, une comédie musicale très hop la vie, très La La Land. Regardez bien le synopsis, c'est l'histoire d'un boys band à succès en manque d'inspiration. Les trois garçonnets décident sur un coup de tête de retourner dans leur Xinjiang natal pour donner un nouveau souffle à leur chanson. Ils vont traverser montagnes magnifiques, lacs transparents, déserts rouges. Ils vont rencontrer des communautés kazakhs, tadjiks et ouïghours. Tout ça dans l'harmonie parfaite et la plus pure bonne humeur. Tout le monde est heureux et quand les trois garçons arrivent dans les villages, ça se met à danser façon Bollywood. Il y aura de la romance, mais juste assez prude pour rester dans les limites de la décence et du bon goût. On a juste oublié un détail. Les camps de concentration. Donc, ce sera peut-être dans la suite de The Wings of Songs. Allez voir la bande-annonce de cette comédie musicale complètement surréaliste. Vous le croirez pas. Je sais pas si ça va sortir chez Guzzo, peut-être, lui qui prône un cinéma divertissant et joyeux. Donc voilà, on se laisse sur cette nouvelle un peu étrange.
Mao serait sûrement content de la poursuite de son génocide, quand même.
De sa sinoïsation du pays.
De la République populaire de Chine.
Bon, on vous laisse nos coordonnées. C'est déjà la fin de l'émission. Donc, apatridesanonymes@resist.ca pour nous écrire. apatridesanonymes.info, notre page, notre site web. On peut nous écouter nos balados. On écoute nos balados dans choc.ca, évidemment. On a une page...
FB.
OK, c'est clair. Donc, nous, on se retrouve la prochaine émission dans 2 semaines. Donc, ça nous mène au 6 mai 2021. Merci beaucoup, Marie-Ève. Très, très excellente recherche et résumé de la situation quand même compliquée. Île Canaries, Maroc, Espagne. Merci, Mathieu, pour ta visite du Musée des horreurs caquistes.
Merci à toi, Simon, à l'animation.
Merci, ça fait plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se laisse avec une pièce Speed Guru. C'est le nom de la pièce. L'artiste You Do Right. C'est sur un album split avec Acid Mother's Temple, une tune chacun assez longue. J'ai pas entendu celle d'Acid Mother's Temple, ça doit être bien fucké comme ils font d'habitude.
Bien psychédélique.
You Do Right, groupe post-rock montréalais, un peu dans la même lignée que Godspeed, va sortir un album complet le 21 mai prochain. Godspeed vient aussi d'ailleurs de sortir un album, il faudra en faire jouer bientôt. J'apprenais dans le même genre, Fly Panam va en sortir un bientôt, un album. Donc on se laisse, c'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On écoute Speed Guru, You Do Right.